en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous ai proposé comme titre « Tableau raisonné des sciences humaines et sociales ». Je préférais des sciences anthropologiques ou tout simplement de l'anthropologie. Alors, je ne vous apprendrai rien, Monsieur le Président, en avançant que toute enquête rationnelle part d'un étonnement, d'une interrogation, même d'un point d'interrogation. En l'occurrence, on constate un pullulement apparent de ces sciences anthropologiques, de ces disciplines, dont la justification n'apparaît pas au premier regard. Je cite, mais en vrac, enfin, sans chercher le moins du monde ni à classer ni à être exhaustif. Histoire, philosophie, sociologie, ethnologie, archéologie, psychologie, suicidologie, etc. Politologie, polémologie, économie politique, démographie, sciences du sport, enfin des jeux, ludologie, sociologie en un autre sens, philologie, criminologie, qu'est-ce que j'ai noté là encore ? J'arrive même plus à me lire. Bon. Linguistique, effectivement. Sciences cognitives, de la communication, de l'éducation, de l'alimentation, sinologie, indologie, ethnographie, égyptologie, américanisme. Enfin, bon, des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines, je n'en sais rien. Alors, on peut, devant ce pullulement, adopter deux attitudes. Habituel, soit une démarche empirique, c'est-à-dire on procède à un dénombrement que l'on veut aussi exhaustif que possible, après quoi on classe, c'est tout à fait possible, mais cela n'explique rien. C'est un tableau, comment dire, plus simplifié, plus ou moins convaincant. J'ajouterai qu'il n'y a jamais une seule classification possible, mais plusieurs, et aucun point de vue n'est dégagé qui permet de choisir entre ces classifications. Elles sont, quand elles sont bien faites, équiprobables, tout simplement, tout dépend de la question que l'on cherche à résoudre. Alors, pour espérer une explication, il faut adopter une démarche différente et transformer l'interrogation en une question. En l'occurrence, cela pourrait donner à peu près ceci. Si l'on décide de prendre l'humain comme objet de science, la diversité des sciences anthropologiques trouve-t-elle une explication plausible ? Autrement dit, une réponse satisfaisante à la question doit rendre compte à la fois des choses humaines et de la connaissance qu'il est possible d'en prendre. Ou bien exprimé de manière différente, les sciences anthropologiques sont un objet des sciences anthropologiques parmi d'autres. Donc, on opère un retournement, si vous voulez, l'interrogation initiale. Alors, cette démarche, cette deuxième démarche que j'adopterai, est celle de la science, si on entend par science un mode du connaître qui prend appui sur une hypothèse, dont il soit possible de déduire des prédictions, c'est-à-dire, si l'hypothèse est juste, alors on devrait constater ceci. Le mot de prédiction a été très mal choisi, parce qu'il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais seulement de prédire des expériences que l'on peut faire. Autrement dit, déduire des prédictions de l'hypothèse vérifiables par des faits, de manière que l'enquête consécutive puisse aboutir à une explication. Si l'opération réussit, l'étonnement initial fait place à un étonnement final. Comment pourrait-il en être autrement ? Et je renvoie à Aristote, dont, comme généralement, je pars, si vous voulez, auquel j'aboutis. Alors, quelle hypothèse vais-je retenir ? Elle est très simple. L'espèce humaine présente dans le vivant cette particularité que ses représentants naissent virtuellement humains et le deviennent actuellement par acculturation au contact d'humains déjà acculturés. La nature humaine est virtuelle et sa réalité est culturelle. Cette hypothèse est cohérente au sens où je n'y vois aucune contradiction logique. Elle est plausible au sens où elle ne heurte pas le bon sens. Cela ne veut pas dire qu'elle soit vraie. une hypothèse scientifique n'a pas à être vraie au départ, elle a simplement à être cohérente et plausible. C'est la seule, je répète, exigence adressée à une théorie scientifique, et non pas qu'elle soit par ailleurs mathématique. Je vous préviens tout de suite, la théorie que je faisais, une théorie que je vais développer, n'a rien de mathématique. Bon. Donc il s'agit de tirer de cette hypothèse, par déduction successive, le foisonnement, sinon infini, mais du moins pullulant, des sciences anthropologiques, et de les confronter aux données empiriques. Alors, j'insisterai sur la déduction, et beaucoup moins sur les données empiriques. Je vous laisse le soin de repérer, ça et là, les sciences. Enfin, je les indiquerai tout de même, mais uniquement par allusion. Alors, je procéderai en trois étapes de déduction, selon la formule, pour que bien fixer les idées. Si l'hypothèse est juste, alors l'humain doit être tel, et un savoir rationnel peut et doit en prendre connaissance, ce que les données empiriques vérifient. Les trois déductions doivent faire naître d'une part des disciplines, ensuite des dimensions et enfin des ordres. Alors ce sont des mots qui sont utiles mais qui n'ont aucune espèce d'importance. Je pourrais mettre X, Y, Z, ce que M. Mongin appellerait des symbolisations. Commençons par les disciplines, ce qui ne va pas de soi. Soit la proposition de l'hypothèse, mais un peu transformée, la nature humaine est un ensemble cohérent de virtualité dont les actualisations sont culturelles. Cette simple proposition, ou cette proposition simple, peut être étudiée à trois points de vue différents et liés. Point de vue A, symbole A. Que veulent dire précisément les différents éléments de la proposition ? On peut prendre chaque mot. Et la proposition elle-même, elle ne va pas de soi, on n'est pas sûr de ce qu'elle veut dire. Autrement dit, de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on en général lorsqu'on parle de ce dont je suis en train de parler ? Vous avez un deuxième point de vue que j'appellerai B. Comment se présentent les résultats culturels des actualisations ? Autrement dit, de quels objets repérables dans le réel, dans le règne humain, celui-ci est-il composé ? C'est un ensemble de singularités, d'objets singuliers. Et enfin, un troisième point de vue est possible, c'est quelles particularités ont fait que telles actualisations singulières ont produit tels objets singuliers plutôt que tels autres ? On est ici dans le règne du particulier. Alors, comme tout cela ne va pas de soi, je vais prendre un exemple simple. J'imagine un martien qui arrive sur Terre, il ne sait rigoureusement rien, mais il a une capacité à tout apprendre instantanément. Et on lui pose la question, quelles sont les origines de la Révolution française ? Donc il ne sait rien. Alors, comment va-t-il procéder pour essayer de savoir quelque chose, donc pour trouver des réponses à cette question ? Eh bien, il va commencer par se demander que veut dire « française ». Il arrivera probablement à la conclusion que cela veut dire « en France ». Ce qui veut dire, plus précisément, dans une politique, dans mon vocabulaire, insérée dans une transpolitique européenne, qui elle-même est une ère culturelle maximale comparable à l'ère chinoise, indienne ou amérindienne. Je vais très vite, hein, je n'essaye pas de démontrer, c'est simplement une illustration. Ensuite, révolution. Qu'est-ce qu'une révolution ? Bon, il arrivera peut-être à la conclusion qu'il s'agit d'un changement de régime politique. Qu'est-ce qu'un régime politique ? C'est un certain mode d'organisation des relations de pouvoir au sein d'une politique en tant que telle. Et donc une révolution peut être définie comme une substitution d'un régime, en l'occurrence démocratisable, alors ça c'est très... Bon, je n'entrerai pas dans les détails. Substitution donc d'un régime, disons, aristocratico oligarchique, mais démocratisable, à un régime hiérocratique ou autocratique. C'est une thèse que l'on peut plaider. Et enfin, origine, c'est le plus compliqué. J'introduirai ici une formalisation, je n'irai jamais jusqu'à la mathématisation. Si la Révolution française est qualifiée de X, les origines, c'est X égale F de A, B, C, N. C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer que ça a eu lieu. Autrement dit, de quoi parle-t-on ? C'est la première question que le martien se poserait et, au bout d'un certain temps, il parviendrait à des conclusions, dire « je sais de quoi l'on parle », c'est la position A. À la lumière de A, comment se présentent les faits en France en 1789 ou aux alentours de 1789, on peut commencer en 87, enfin peu importe, c'est-à-dire qu'on est dans au point de vue B. Quels sont les faits singuliers qui définissent la Révolution française ? Troisième point de vue auquel se consacrerait le Marcier, de loin le plus difficile, qu'est-ce qui entre dans la parenthèse F2 ? Qu'est-ce que A, B, C, N ? Autrement dire, quelles sont les particularités françaises à retenir qui ont pu avoir quelque incidence sur le mouvement tel qu'il vient d'être reconstitué en tant que fait singulier. Alors, en fait, il s'agit de particularités européennes. Par exemple, une société typiquement indo-européenne, c'est-à-dire fondée sur une structure, une composition sociale, faite d'aristocrates, d'une aristocratie et d'une paysannerie, qui est en place en Europe depuis à peu près la moitié du troisième millénaire avant notre ère. Et qui a été indéfiniment conservé pour des raisons très compliquées, un retard dû à la fonte des glaces qui a progressivement libéré l'Europe, le fait qu'une certaine manière de vivre en société a été les cités grecques, latines, et que dans ces cités, les lignages aristocratiques sont conservés. Alors comment le fait-on ? Bien, on compare avec ce qui s'est passé avec les aristocraties indo-européennes en Inde, en Iran, au Mitanni, ainsi de suite. Tout était liquidé physiquement la plupart du temps, socialement, chez les Achéménides. Donc on a le martien trouverait, comment dire, dans la documentation, de quoi poursuivre son enquête. La conséquence, c'est que ce sont des particularités européennes. Et donc ne se retrouve pas ailleurs, par exemple, ni en Russie, ni en Chine. Ce qui pourrait expliquer que les révolutions de 1911 et de 1917 ont tourné de manière tout à fait différente. En effet, il parviendrait probablement à la conclusion à laquelle sont parvenus les historiens, à savoir que la Révolution française s'inscrit dans un cycle révolutionnaire européen, que l'on peut symboliquement faire partir de 1564 avec la révolte des Provinces Unies et que l'on peut clore en 1848 et les développements ultérieurs. Alors, cette situation est absente sur toutes les autres aires du fait de l'absence d'un certain nombre de facteurs tout à fait intelligible. Alors, le martien pourrait, s'il étend encore son champ d'intérêt, considérer comme plausible que l'humanité est entrée dans un nouveau cycle révolutionnaire séculière, tel que la révolution a été définie, qui a été inaugurée en Corée du Sud en 1987, avec des conditions, donc dans le F2, qui n'ont rien à voir avec les conditions qui régnaient en Europe, mais qui sont analogues, si vous voulez, et qui donc devraient avoir les mêmes conséquences. Mais il ne s'agit pas de prédire l'avenir. Voilà un exemple, je suis désolé, enfin, pour la rusticité de la présentation. Cet exemple peut être généralisé à toute entreprise d'exploration rationnelle de faits humains. Il faut toujours dégager et s'armer de concepts. Qu'est-ce qu'un concept ? Je le définirais comme une asymptote entre des cognitions et des réalités, entre une cognition et une réalité. C'est le point de vue A que l'on peut convenir d'appeler philosophie. Il faut ensuite s'en servir pour repérer des objets distincts dans les matières humaines et en procurer les représentations les plus fidèles possibles. C'est le point de vue B que l'on appelle généralement l'histoire. et qui, spontanément, repose sur deux piliers. Le premier, c'est le recueil et le traitement des documents. Il faut bien commencer par là. Et ça vous donne l'archéologie, la numismatique, les inscriptions, la paléographie, l'exégèse, les enquêtes de terrain, les statistiques, enfin bref, tout ce qui permet de recueillir des documents et de les faire parler. Et deuxième pilier, eh bien, la construction des faits à l'aide des documents. Par implication, s'il n'y a pas de documents, on ne peut pas construire des faits. Ce qui est généralement le cas. Bon. Et enfin, troisièmement, il faut comparer les faits entre eux et les manipuler de manière à les transformer en facteurs les uns des autres. C'est le troisième point de vue, c'est une discipline que l'on peut convenir d'appeler sociologie, que moi, en tout cas, j'appelle sociologie, j'y reviendrai tout à l'heure. On pourrait s'attacher à ces trois disciplines, philosophie, histoire et sociologie, comme objet, si vous voulez, d'enquête scientifique, puisque ce sont des produits des histoires humaines, et parvenir, ce faisant, à des conclusions instructives que je me contente de signaler. Par exemple, il se pourrait que la science des mythes, ou mythologie, au sens propre du terme, aurait peut-être intérêt à partir de l'hypothèse que les mythes sont des entreprises d'élucidation des faits humains qui confondent philosophie, histoire et sociologie. Et que par conséquent, on peut analyser les mythes comme des esquisses d'histoire, de sociologie et de philosophie, ce qui me paraîtrait pouvoir renouveler la problématique. Autre conclusion, la philosophie est probablement, je le plaiderai personnellement, une disposition spontanée dans une espèce dotée de conscience réflexive. Mais pour devenir une discipline distincte, elle suppose la mise en place de classes de loisirs disposées à s'adresser à des intellectuels pour réussir à y comprendre quelque chose. Donc, il faut que l'offre et la demande, mais surtout la demande, soient créées historiquement. Et de fait, c'est ce que l'on vérifie. Enfin, bon. L'histoire est probablement, là aussi, une disposition spontanée dans une espèce qui est historicisée de fondation. Chacun de nous a une biographie qui est une histoire ou un ensemble d'histoires. Cette disposition spontanée devient un genre distinct à nouveau avec les annales royales, donc avec certains types de régimes politiques repérables en particulier en Mésopotamie et en Chine, et devient une discipline scientifique, je dis bien scientifique, en Grèce, grâce aux régimes politiques des cités qui sont une certaine manière de vivre ensemble. Je crois que François Châtelet avait vu quelque chose de juste dans sa thèse sur la naissance de l'histoire. Ça s'appelait comme ça, je crois. Pour ce qui est de la troisième discipline, la sociologie, eh bien, je crois que comme la science, comme mode du connaître, elle a deux actes de naissance. Un premier en Grèce, non pas alexandrine et hellénistique, mais hellénique, si vous voulez, la Grèce classique des cités, grâce à plusieurs facteurs, la contiguïté asiatique, le système des cités, des régimes politiques mixtes, je ne développe pas, ce sont de simples indications, et je retiendrai comme figure emblématique de cette naissance Aristote, pour ce qui est des sciences anthropologiques, est simultanément un philosophe, un historien et un sociologue. Il a tout de même écrit une histoire de la constitution d'Athènes, qui est de l'histoire, de l'historiographie en bonne et due forme. Pour ce qui est de la sociologie, je renverrai par mon livre 5 de la politique, où il y a cette merveilleuse théorie des révolutions dans les cités qui reste parfaitement, qui tient la route 2500 ans après ou presque. Deuxième naissance, ben c'est en Europe, évidemment, comme la science. Ce serait ma thèse, grâce à la pluralité des politiques, à des régimes tempérés et à une ouverture sur le monde, et en l'occurrence sur la planète, et à la naissance de la science au sens de mode scientifique apparu dans le premier tiers du XVIIe siècle. Et je prendrai ici comme figure emblématique Montesquieu, qui est à la fois philosophe, historien et sociologue, mais qui, contrairement à Aristote, a eu le malheur de bien écrire et de s'être livré à des coquetteries de style, si bien qu'il a été annexé par les profs de français et les manuels du secondaire. Parce qu'effectivement, on peut le considérer ainsi. Et donc, la partie proprement scientifique, qui est massive, majeure, enfin, passe un peu inaperçue. Voltaire l'avait noté. Ayant reçu enfin l'esprit des lois, il a dit ben, enfin c'est pas très sérieux de parler de choses sérieuses en plaisantant, c'est pas les mots, mais enfin, et il avait raison. Voltaire avait tout à fait raison, il n'est pas bon de faire de la littérature sur de la science. Simplement pour vous dire que mes deux héros dans les sciences anthropologiques sont Aristote et Montesquieu. Et pour ce qui est de la deuxième naissance, pas du tout l'inventeur du mot sociologie, pour qui, je ferme la parenthèse, mais même je ne l'ai pas meublé. Deuxième déduction que j'appelle les dimensions. Je repars de l'hypothèse. Une nature virtuelle et une actualité culturelle. On peut en déduire immédiatement que l'humain s'inscrit dans un espace à quatre dimensions. Et je prends ici dimension, espace et dimension au sens des mathématiciens. Je ne mathématise pas, mais c'est une métaphore mais que je crois ici utile. Il y a une première dimension évidente qui est biologique, puisque l'espèce relève à coup sûr du règne vivant, c'est impossible d'en douter, et que le caractère fondateur que je viens de rappeler, est l'expression de degrés de liberté génomique consentis par l'évolution, Dieu et ou la nature, cette espèce. Vous avez deuxièmement, et de manière évidente, une dimension culturelle qui est incluse dans la définition, puisque les humains n'accèdent à l'existence actuelle que par des médiations culturelles. Troisièmement, il y a une dimension, c'est moins évident, que j'appelle anthropique, A-N-T-H, pas E-N-T-R, qui est indispensable à l'effectuation de la transition du virtuel à l'actuel. Je vais préciser tout ça. Et enfin, une dimension psychique qui procure à l'anthropique les ressources indispensables à l'effectuation anthropique. C'est quoi ? Eh bien, la sensibilité appuyant la volonté éclairée par l'intelligence. C'est un peu raccourci, concis comme définition. J'y ai consacré 1129 pages, je crois. Donc, si ça vous intéresse, bon. Alors, il s'agit de dimensions et non pas de strates. C'est-à-dire qu'il y a une couche biologique et puis on en rajoute une psychique et ainsi de suite. Non. Tout fait humain, quel qu'il soit, figure comme un point dans cet espace à quatre dimensions, ce qui élimine d'entrée tout réductionnisme, toute proposition portant sur l'humain qui contient l'expression « ne que » est sûrement fausse, ou du moins mérite qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse. Et la plupart du temps, c'est faux. Tout réductionnisme, sauf s'il s'agit de torpiller, si vous voulez, une pétition de principe, tout réductionnisme est faux, il doit être condamné. Cela condamne également tout dualisme. On n'en a absolument pas besoin. C'est un espace à quatre dimensions, et donc tout phénomène humain, je répète, peut accepter une interprétation en termes biologiques, psychiques, et ainsi de suite. Alors, à partir de là, on peut prédire, c'est mon propos, que chaque dimension doit, ou peut, les deux, devenir objet d'enquête scientifique. Le plus apparent est évidemment la dimension psychique qui donne la psychologie. Celle-ci se décline évidemment en un certain nombre de sciences subordonnées, mais psychologique comme science du psychique colle tout à fait. La dimension biologique est prise en charge par la biologie. Mais il faut le faire avec précaution. Est-il bien assuré que la biologie, telle que la pratiquent les biologistes, si vous voulez, distingue la biologie humaine et ne la confond pas souvent, ou pas toujours, mais parfois, avec la biologie des souris. Enfin, bon. Tout de même, l'espèce humaine est une espèce qui présente des particularités, et donc on aimerait bien que ça soit plus spécialisé. Or, la tentation réductionniste est apparemment irrésistible et très visible à l'heure actuelle dans les sciences génétiques et dans les neurosciences, sur lesquelles je n'ai pas le moindre mot à énoncer parce que ça sort de mes compétences, mais j'aimerais bien que la réciproque soit respectée et qu'ils ne viennent pas nous enseigner des choses sur l'humain à partir de ce que l'on voit dans le scanner des souris, enfin bon, par exemple. Bon. Alors, la conception de l'humain comme un espace, à quatre dimensions paraît devoir condamner la démarche reçue depuis Descartes n'y est pour rien, tout simplement parce que le début de la science, qui consiste à passer de l'élémentaire au complexe, et par exemple du neurone au cerveau, dans la dimension biologique, bien entendu. Pour la raison suivante, mais je crains de m'avancer un peu en dehors de mon terrain d'expertise, car c'est le cerveau humain, et non celui de la souris, si vous voulez, qui fonde et assure la dimension biologique, entre autres, enfin c'est l'organisme tout entier, si vous voulez, mais en tant qu'humain. Or, c'est en tant que système fonctionnel qu'il assure la dimension biologique qui crée, avec les trois autres, cet espace. Et donc, je ne vois pas la possibilité, par exemple, de partir du neurone ou de groupe de neurones pour, comme ils disent, faire naître la conscience. Ça n'a pas de sens. C'est comme si le piano, vous avez les cordes du piano, créaient la sonate. Même si, bien évidemment, il faut un piano pour que la sonate devienne audible. De même, il faut bien un cerveau, enfin, pour que la pensée puisse s'exprimer. Mais ces questions sont difficiles, et la preuve, c'est que ça tourne en rond, comme nous l'a bien expliqué le professeur Lemoël, c'est bien ça, qui disait qu'il ne comprend plus rien du tout. Pour être franc, ça ne m'étonne pas beaucoup, enfin, bon, pour avoir un peu suivi cette littérature depuis plusieurs décennies. La dimension culturelle est très difficile à saisir comme objet distinct, malgré son évidence, pour une raison que je crois décisive, à savoir que les cercles d'acculturation sont susceptibles de connaître les rayons les plus variés, depuis le ménage, les parents et les enfants, jusqu'au moins la civilisation et probablement au-delà. Et par conséquent, le culturel est distribué, si vous voulez, sur des niveaux très varié et variable selon les stades de l'histoire humaine. Et par conséquent, il est très difficile de l'isoler au-delà de propos vagues, plus ou moins littéraires, sur les mœurs, sur les cultures, sur les caractères ethniques ou les caractères nationaux, sur les civilisations. Je ne connais aucune théorie scientifique qui tienne la route sur les civilisations. Et si vous prenez les grands textes des grands-pères fondateurs, par exemple de la sociologie, vous n'avez trouvé pas grand-chose sur ce... Et pourtant, c'est évident. Enfin, un Français n'est pas un Chinois. Mais en quoi sont-ils différents? Très précisément, personne n'a jamais réussi à le saisir d'une manière qui soit, comment dire, à la fois théoriquement fondée et vérifiée par les faits. Enfin, la dimension anthropique, A-N-T-H-R-O, anthropique, anthropos. C'est pour passer du virtuel à l'actuel, les humains ont un certain nombre de problèmes à résoudre. Autrement dit, nous ne naissons pas pleinement équipés pour conduire une vie humaine du début jusqu'à la fin, qui peut être d'ailleurs plus ou moins l'éloignée. Alors, pour résoudre ces problèmes, eh bien, Dieu et ou la nature a doté l'espèce de tout ce dont elle a besoin, sinon elle n'existerait pas, si elle n'était pas ainsi équipée, pour mobiliser les ressources psychiques, la sensibilité, l'intelligence, la volonté, en les appliquant à trois modes fondamentaux d'activité, repérés depuis l'Antiquité grecque au moins. Première activité que l'on peut convenir d'appeler l'agir, qui consiste à approprier des moyens à des objectifs et à chercher à les atteindre dans l'incertitude des circonstances et des conséquences, dont on déduit que l'agir évolue dans la singularité la plus irréductible, ce qui a des conséquences très fâcheuses pour la faillibilité de l'espèce. Il y a une deuxième activité radicale, tout à fait différente, que l'on peut appeler le connaître, qui consiste à trouver les bonnes réponses aux questions bien posées. Et enfin, une troisième activité qui est mal nommée dans la tradition, le poiein en grec, mais c'est trop précis, que moi je l'appelle le faire, c'est pas bon, mais il n'y a franchement pas de mot qui convienne tout à fait. Je désigne par là le fait de matérialiser des formes ou d'informer des matières. Bon, ben à partir de là, on peut prédire des sciences qui s'appliquent à chacune de ces activités, en général ou en particulier, parce qu'il y a des subdivisions. Par exemple, les sciences cognitives sont les mieux circonscrites, et ce depuis très longtemps, et en particulier dans la tradition européenne depuis des millénaires. Pourquoi cela ? Eh bien, peut-être parce que les chercheurs sont plus intéressés à tout ce qui concerne le connaître et sont mieux équipés pour en traiter savamment. Ces sciences cognitives pourraient s'appeler la gnoséologie, enfin, qui est un mot que je n'ai pas inventé, alors, bien entendu, on peut décliner ensuite. Alors, l'agir a inspiré ce que, traditionnellement, on appelle une praxéologie, par exemple la théorie stratégique ou la théorie des jeux, mais qui oppose une difficulté majeure à son traitement scientifique, puisque l'agir évolue dans la singularité, alors que la science courante s'occupe de la généralité. Et par conséquent, la praxéologie court les risques les plus certains d'être réduite à la gnoséologie. Ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses, qui consistent à confondre la science de l'agir, par exemple la science de la guerre, c'est-à-dire des faits guerriers, des faits militaires, avec le fait de faire la guerre scientifiquement. Ce qui est impossible. Enfin, Napoléon avait étudié, comme les grands généraux, enfin des batailles, enfin des campagnes et ainsi de suite. On avait tiré des enseignements, mais une fois qu'il était sur le champ de bataille, comme il l'a dit d'une manière définitive, on s'engage et puis on voit. Et on pourrait ajouter, ça marche ou ça ne marche pas. Enfin, bon, et la science, on ne peut pas agir scientifiquement, tout simplement. Bon, on peut nourrir l'action de science, mais on ne peut pas agir scientifiquement, c'est tout très fort important. Quant au faire, il pourrait donner lieu, si on aime les néologismes, ce qui est mon cas, ça m'amuse, surtout à partir du grec, qu'on pourrait appeler, mais ça n'existe pas, la placéologie de placène, qui veut dire très précisément, informer, enfin donner forme à une matière première. Eh bien, elle est prise en charge par des études qui sont surdéterminées par ce que j'appelle les ordres et que je vais aborder dans une seconde. Par exemple, les institutions, sciences des institutions, des organisations, des arts, des outils. En tant que tel, ça n'a pas été tellement poursuivi. Sauf peut-être qu'il y a une grande œuvre qui s'est intéressée aux outils comme objet de science, c'est Le Roi Gourand, L'homme et la matière, 1942-43, je crois, si je me souviens bien, merveille, sur les outils, le marteau, la hache, enfin, etc., et montrer pourquoi. C'est vraiment une science des outils, en l'occurrence, les outils premiers, si vous voulez, de l'espèce humaine. Alors, il y a une exception qui a donné lieu à des développements scientifiques majeurs, eh bien, c'est le langage et les langues que l'on peut attribuer à la linguistique plus qu'à la philologie, et qui consiste à étudier comment on met en forme des pensées et comment on les communique à l'aide de phonèmes, de mots, de phrases, enfin bon, etc. Il y a une deuxième difficulté pour développer une science du fer, c'est que par nature et de fondation, le fer est inséré dans la particularité culturelle. Par exemple, on ne peut pas étudier un sanctuaire religieux en général. On ne peut étudier qu'un sanctuaire bouddhiste, chrétien, taoïste ou autre. Parce qu'un sanctuaire en général est un bâtiment en général, si vous voulez. Il n'est pas religieux de fondation. Donc il y a une incitation très très forte à étudier le fer d'un point de vue culturel, les églises romanes, les pagodes thaïs, et ainsi de suite. Sauf probablement le langage et les langues, c'est une exception majeure. Alors chaque activité, cela une fois posé, peut être déclinée, comme on dit aujourd'hui, de manière plus ou moins poussée, surtout le connaître, dont il y a plusieurs modes, le mode sensible, le mode supra-intellectuel ou mystique, le mode symbolique, le mode mythologique, le mode empirique, scientifique, réflexif. Donc tout cela a donné lieu à des études et plus ou moins développées. Par exemple, si on isole la science comme mode du connaître, eh bien, on développe l'épistémologie, si vous voulez, de la science, qui ensuite peut se diversifier en épistémologie des sciences, où il est possible de parvenir à la conclusion que certaines sciences sont mathématisables parce qu'elles s'occupent de choses mathématisées ou écrites en langage mathématique, et d'autres pas. La biologie est très peu mathématisable, et l'humain, pas du tout. Sauf exception, que je ne connais pas. Dernière déduction, j'irai beaucoup plus vite parce que là, c'est plus évident, ce que j'appelle les ordres. La virtualité, je repars toujours de la même hypothèse, pose aux humains des problèmes de survie et de destination, des problèmes qu'ils ont à résoudre, sinon ils ne survivent pas et puis ils savent pas ce qu'ils font sur Terre. Les solutions de ces problèmes, on peut convenir de l'appeler des fins de l'agir humain. Bon, par exemple, la paix, la justice, la prospérité, la santé, la vie, la béatitude. J'en distingue 12 très exactement. Pourquoi 12 ? Et parce que j'en ai trouvé ni 11 ni 13. Bon, j'en ai trouvé 12, point. Alors, chaque fin pose évidemment à son tour des problèmes d'effectuation. Bon, il faut viser la paix, mais comment s'y prendre pour atteindre la paix, ou la justice, ou la prospérité? Pour ce faire, il faut mobiliser l'agir, le faire et le connaître. Donc mobiliser la dimension anthropique, et puis par voie de conséquence, les trois autres aussi. Bien entendu, toujours au risque de l'échec. Nous sommes une espèce exceptionnellement faillible, puisqu'elle est libre. Chaque fin développe par conséquent des régimes, c'est-à-dire certaines manières de combiner des actions, des factions et des cognitions pour atteindre la fin concernée. Ces régimes sont soit naturels, c'est-à-dire appropriés aux fins, soit contre nature, parce que inappropriés aux fins. Si on combine fin plus régime, on définit ce que j'appelle un ordre, qui est chaque ordre étant peuplé de tous les efforts humains, à nouveau en termes de faire connaître et agir, qui intègrent toujours du culturel, du psychique et du biologique, même si, dans quel état était le cerveau de César à la bataille d'Alésia ? Il était sûrement dans un état singulier, mais on ne le saura jamais. En plus, ça ne présenterait aucun intérêt. Alors, chaque ordre peut et doit donner lieu au développement d'une science appliquée à en percer les énigmes, ce qui vous fait naître directement la politologie, les sciences religieuses, les sciences économiques, la démographie, etc., et la sociologie, en un sens qui n'a pas grand-chose, et même rien du tout, à voir avec le sens de la discipline sociologie, malheureusement. Il faudrait deux mots, mais il n'y en a pas, on utilise le même. La sociologie, en tant que science des ordres humains, a en charge trois ordres, 3 sur 12, s'occupent de la grégarité humaine, parce qu'elle joue un rôle essentiel, rien d'humain ne peut se faire dans la solitude. Un ordre qui s'occupe de la manière dont sont transformées les activités individuelles en activités collectives, formation de groupe, c'est extraordinairement compliqué, enfin bon, on n'entre pas, mais bon, il y avait des gens qui s'occupent de ça. Vous avez ce que j'appellerais la sociabilité, c'est-à-dire la manière dont les individus et les groupes communiquent entre eux, ce qui donne lieu à l'étude des réseaux, des relais, de ce qui circule. Là, les langues, dans une certaine mesure, deviennent objets également de cette discipline. Et enfin, ce que j'ai appelé la socialité, c'est-à-dire ce qui fait tenir ensemble les individus, les groupes et les réseaux, et les constitue en société, c'est-à-dire en ensemble à l'intérieur duquel l'humanisation peut s'effectuer. Alors, pour compliquer encore le statut de la sociologie, il y a une troisième définition, une troisième orientation de la sociologie, dite critique, qui est de l'idéologie pure et simple, et qui, comment dire, ne peut pas être justifiée, mais peut s'expliquer par le fait que si on veut réformer la société, en général, on commence par savoir de quoi il est question. Et donc, on fait de la sociologie au deuxième sens, que je viens de définir. C'est fâcheux, c'est très fâcheux, surtout pour les sociologues, dont la déconsidération est universelle depuis les années 60. Bon. Alors, chaque ordre peut s'exprimer en objet distinct et donner lieu, par conséquent, à des sciences spécialisées. Je n'ai pas besoin d'insister, mais je vous donnerai 2 exemples. La santé, qui est une fin. Entretenir la vie au sens biologique du terme, donc par la santé, avec 2 branches fondamentales, entretien de la santé, l'habitat, la vêture, l'alimentation. Dans l'alimentation, on peut étudier la prédation, le passage à la production, on peut étudier la cuisine, gigantesque programme, et puis pourquoi pas créer l'œnologie comme science, enfin voilà, une vraie science, enfin bon... Ou bien, deuxième dimension de la santé, c'est la restauration de la santé lorsqu'elle a été compromise. Et donc l'étude des médecines, non pas la médecine en tant que pratique et mise en œuvre d'un savoir au service de la restauration de la santé, mais les pratiques à travers les histoires humaines et les sociétés humaines pour en peser l'importance, je vous révélerai peut-être, si vous ne le savez pas déjà, que 30% de tous les textes écrits en grec qui ont été conservés jusqu'à ce jour, 30% de tout ce qui a été écrit en grec se trouve dans Galien. Galien égale 30% de l'héritage grec. Autrement dit, les Byzantins attribuaient quelque importance à leur santé. Beaucoup plus qu'à la philosophie, à l'histoire et à la sociologie. Et puis même aux tragédies, aux tragédies grecques, à la santé, Galien. Alors si vous ajoutez Hippocrate et les écrits hippocratiques, ça ne va faire pas loin de la moitié des écrits concernant les médecines. Autre déclinaison, la paix par la justice. Qui définit la politologie. On peut étudier les institutions politiques, la législation, le droit. Là aussi, comme pour la médecine, non pas les sources du droit telles qu'elles fonctionnent dans telle ou telle société, mais les résultats qui deviennent des objets de science, qui est tout à fait différent. Donc, l'histoire du droit en Chine, par exemple, ou la sociologie du droit indien, ou la philosophie du droit bantou, ça existe. Ça, c'est pour la dimension intérieure du politique. Il y a forcément une dimension extérieure où les conflits ne pouvant pas être traités par des procédures et des dispositifs de pacification des conflits peuvent dégénérer en violence, ce qu'on appelle la guerre, donne l'objet d'une science appelée polémologie, qui, du fait même de la nature de l'objet dont elle s'occupe, a 3 dimensions. Une dimension politique, où la fin est la paix, soit par la conquête, soit par l'équilibre, ce qui donne lieu à des développements très considérables et très différents. Une dimension instrumentale, qui a pour fin l'efficacité des moyens mobilisés au service de la au service de la paix, et enfin une dimension opérationnelle qui a pour fin la victoire par la mise en œuvre des moyens de manière à gagner ou à ne pas perdre. Et ces trois dimensions donnent lieu à des études extrêmement différentes, dont, chose tout à fait étonnante, les communications entre elles sont des plus limitées. C'est pris en charge par des niches, si vous voulez, scientifiques très différentes. C'est d'autant plus étonnant que... J'ai évoqué Aristote et Montesquieu, j'en introduirai un troisième, donc j'ai une trinité, à savoir Clausewitz, dans De la guerre, a les trois dimensions traitées d'un point de vue philosophique, sociologique et historique. C'est une science polémologique complète. Je pense depuis 50 ans que j'ai lu Clausewitz que c'est le seul livre définitif qui ait jamais été écrit. Non pas au sens où tout s'y trouve, mais tout y est, d'où il faut partir si l'on s'intéresse aux faits, aux phénomènes de la guerre en général, en particulier et au singulier. Etc., etc. Bon, je n'en dirai pas plus, je vous ai déjà suffisamment fatigué. Quelques mots de conclusion. Ce que je vous ai proposé est une grille de lecture que je crois simple et claire, tirée d'une hypothèse unique et raisonnablement vérifiée par les développements cognitifs repérables, non seulement aujourd'hui ou à l'époque contemporaine, mais partout où on a accès à des efforts de compréhension des choses humaines. Et par conséquent, le magma chaotique du départ n'est pas un magma chaotique, mais les sciences anthropologiques s'ordonnent en une mosaïque qui est tout à fait lisible dès lors qu'est proposée une théorie anthropologique générale. Alors, de là, bien entendu, cette grille est peut-être fausse. Il est même probable qu'elle est fausse. D'autres grilles peuvent être construites. Mais elles doivent répondre à cette condition très précise qu'elles doivent être déduites ou être inscrites dans une théorie alternative. Et que cette théorie alternative doit être inscrite dans une hypothèse fondatrice qui permet de déduire à la fois les faits humains que l'on constate et la manière d'en prendre connaissance, qui n'est pas si simple que cela. Et deuxièmement, on peut évidemment soutenir qu'aucune théorie n'est possible, et donc aucune grille, et donc il faut s'en tenir à la méthode empirique, mais dans ce cas, il faut le démontrer, et on ne peut le faire probablement qu'à l'aide d'une théorie générale. Et donc, lorsqu'on nie la possibilité de savoir, si vous voulez, il faut penser à Épiménide le Crétois et prendre bien soin de faire en sorte que la proposition qui fonde la position fasse partie de la position, ce qui condamne, somme toute, à l'insignifiance ce genre d'affirmation. Alors, les trois dimensions, les trois déductions que j'ai effectuées doivent évidemment être poursuivies conjointement. Il ne s'agit pas de séparer tout ça. Alors ça donne par exemple la philosophie, l'histoire et la sociologie, où on ne peut pas tout faire, évidemment, par exemple du connaître religieux. C'est quoi ? Eh bien, les cognitions portant sur l'absolu, dont certaines se présentent comme des révélations et d'autres non. De même, philosophie, histoire, sociologie, du fait religieux, les sanctuaires, les rites, les règles, les communautés, les psalmodies, enfin bref, d'innombrables objets peuvent être étudiés de ce point de vue. Et enfin, de l'agir religieux, qui est, pour ainsi dire, non documenté, parce que l'agir étant réduit à la singularité, ne figure généralement pas dans les documents, enfin bon. Alors c'est quoi ? C'est par exemple la dévotion, la prière, la voie mystique, le pèlerinage. Alors bien entendu, ça figure dans des cognitions et des factions, mais alors cela en Grèce, en Afrique, en Chine, en Inde, enfin bon. Il faut combiner tout cela si l'on veut parvenir à une connaissance rationnelle des faits humains. Malheureusement, une quatrième déduction de la proposition fondamentale est possible, qui conduit à une aporie insurmontable, à savoir que l'humain est une totalité qui ne peut être abordée que par des points de vue particuliers. Conséquence, si on s'attache trop à la totalité, on court le risque de parler sans savoir, et si on s'attache trop à la particularité, on risque de parler pour ne rien dire. Conclusion, il faut trouver un point d'équilibre, mais ce point d'équilibre est fluctuant, et donc les produits de l'anthropologie s'apparentent à des œuvres d'art, c'est-à-dire à des produits humains, du fer, des produits du fer, qui construisent une singularité parmi une quasi-infinité de singularités possibles, tout en ayant la vérité pour fin. Autrement dit, des singularités à la fois particulières et générales, ce qui peut paraître contradictoire ne l'est pas, et cela se vérifie lorsque l'on prend les grands philosophes, les quatre qui suffisent à décrire l'histoire de la philosophie, Platon, Aristote, Kant et Hegel. Allez, si on est français, j'entends Descartes pour faire plaisir, mais les quatre, ils sont à la fois tout cela. Enfin, ce sont des œuvres d'art. Enfin, je parle de leur œuvre, si vous voulez. De même pour les grands historiens. Les grands historiens, Thucydide, Tacite, les grands sociologues, le plus grand, Montesquieu, pour moi. Alors, bien entendu, selon les tempéraments, ils sont plutôt philosophes, plutôt historiens ou plutôt sociologues, et seuls les très grands sont tout à la fois, Aristote et Hegel en particulier, et Montesquieu. De même, Thucydide est manifestement un historien, philosophe et sociologue. Enfin, ça saute aux yeux lorsqu'on le lit ainsi. Bref, merci pour votre attention.